Nous allons donc passer à la communication d'aujourd'hui. Je veux vous dire deux mots de Laurent Ridel, qui va prendre la parole. Il m'a paru indispensable, au cours de ce programme annuel, de consacrer deux séances à la France pénitentiaire, à l'exécution des peines en milieu pénitentiaire, qu'il s'agisse du milieu fermé ou du milieu ouvert. Alors, sous réserve d'imprécisions de chiffres que Laurent Ridel saura corriger, j'indique simplement que je ne suis pas certain que toutes et tous vous connaissiez bien cette administration, qui est forte de près de 45 000 fonctionnaires et qui, dans près de 187 établissements, assure l'exécution des décisions de justice tout en préparant à la sortie, car sauf quelques rares exceptions, on sort un jour de prison. Et il s'impose de tout mettre en œuvre pour assurer la réinsertion et par là même éviter la récidive. Vous savez que l'administration pénitentiaire est actuellement en difficulté, avec un taux d'occupation qui ne cesse de croître, plus de 77 000 détenus environ actuellement. Si les établissements pour longue peine parviennent, en principe, à respecter l'encellulement individuel, il n'en va pas de même des maisons d'arrêt, qui accueillent les détenus provisoires et les courtes peines. La surpopulation en France est endémique, à part une courte période Covid, ce qui montre que de temps en temps, on peut peut-être avoir moins de détenus, et elle nous vaut des condamnations par la Cour européenne des droits de l'homme, ce qui n'est pas glorieux du tout. Pour vous parler de cette administration qui possède son école, son service national de renseignement, ses équipes régionales d'intervention et de sécurité, pour vous parler donc du milieu fermé comme du milieu ouvert, nul n'était mieux placé que Laurent Ridel, qui a dirigé cette administration jusqu'au 8 avril 2024, il y a deux mois, et qui vient d'être nommé inspecteur général de la justice. Pourquoi est-il le mieux placé ? Parce qu'il fut le premier directeur de cette administration à n'être ni magistrat de l'ordre judiciaire, ni préfet, ni conseiller d'État, ni conseiller maître à la Cour des comptes. Laurent Ridel est un pénitentiaire, je mets le mot entre guillemets, qui a compté de 1986, sera sous-directeur de la maison centrale de Saint-Maur, établissement de longue, voire de très longue peine. Il dirigera le Centre national d'observation, qui est implanté à Fresnes. Il deviendra chef de cabinet du directeur de l'administration pénitentiaire, directeur de la maison centrale de Poissy, puis du centre pénitentiaire de Nouméa, et après différents postes interrégionaux et au sein du ministère de la Justice, il devient en 2004 directeur interrégional à Strasbourg, puis après un passage auprès d'un garde des Sceaux en cabinet ministériel, il prendra la tête de la direction interrégionale de Paris, Île-de-France, avant de diriger l'administration pénitentiaire de 2021 à avril 2024. Donc c'est le splendide parcours d'un homme qui connaît mieux que quiconque une administration qui, elle, est peu connue et qui est pourtant absolument indispensable. Nous avons de la chance de l'avoir avec nous aujourd'hui, et quand on sait la place que tient le thème de l'insécurité, le thème du maintien de l'ordre, le thème du « il faut sanctionner beaucoup plus quand même dans ce pays », et quand on voit ce qu'est le taux de surpopulation, quand on replace tout ça dans le contexte que nous connaissons depuis hier soir, il n'est pas inintéressant, je pense aujourd'hui, de savoir ce qu'est l'administration pénitentiaire actuellement en France, ses forces, mais aussi ses faiblesses. Laurent Ridel, vous avez la parole.
Monsieur le chancelier, monsieur le président, monsieur le secrétaire perpétuel, monsieur le vice-président, mesdames et messieurs les académiciens, mesdames et messieurs. J'ai en effet la lourde responsabilité aujourd'hui, dans ce lieu illustre, de représenter l'administration pénitentiaire pour vous parler de cette institution peu connue, mais sur laquelle chacun, paradoxalement, a son idée, sa posture, sa vérité, ses certitudes et parfois ses fantasmes. Il me paraît important, avant de vous livrer quelques idées et analyses au sujet de ce service public essentiel pour la société et profondément humain, qui concentre en son sein tant de dimensions, de présenter brièvement cette administration, encore une fois peu ou mal connue. Dans cette présentation sous forme de constat, je tiens à souligner d'ores et déjà la mission essentielle remplie par le service public pénitentiaire, exercée par des agents qui sont parfois amenés à perdre leur vie pour protéger nos concitoyens et défendre les valeurs de la République. Nous en avons, hélas, eu très récemment une nouvelle et dramatique illustration le 14 mai dernier. C'est à ces héros du quotidien, souvent anonymes, que je souhaite dédier cette intervention. Le premier constat que je suis amené à faire, c'est que la prison est une institution sociale qui doit être assumée par la société. Elle n'est pas par essence la prison bonne ou mauvaise, elle est ce que la société en fait, en fonction des moyens attribués, des règles de fonctionnement et des objectifs assignés. Elle n'est pas à la marge de la société, au contraire, elle est au cœur de celle-ci et contribue à préserver le contrat social et le pacte républicain. Dans le prolongement de la fameuse phrase d'Albert Camus, rappelant qu'une société se juge à ses prisons, Frédéric Desportes, premier avocat général à la Chambre criminelle de la Cour de cassation, va jusqu'à évoquer, j'ouvre les guillemets, un miroir grossissant, puisque les valeurs qui fondent le pacte social sont censées s'y exprimer plus intensément qu'ailleurs. La prison est au cœur des politiques publiques essentielles et participe, par exemple, à ce titre, pleinement à la lutte contre les violences conjugales, la radicalisation, le narcotrafic ou encore l'immigration clandestine, tout comme aux actions d'insertion sociale, sanitaire et professionnelle. Le deuxième constat, découlant logiquement du premier, c'est que l'administration pénitentiaire est sans doute l'une des administrations qui a le plus évolué en l'espace d'une génération. J'ai travaillé, ça a été rappelé, au sein des services pénitentiaires depuis près de 40 ans, et j'ai été un témoin privilégié de cette mutation. Un exemple très parlant concerne le rapport au droit, sur lequel je reviendrai plus précisément tout à l'heure. Lorsque j'ai débuté ma carrière en 1985, d'un strict point de vue juridique, la prison était en quelque sorte hors du droit. Ce n'est plus du tout le cas à l'heure actuelle. Les détenus ont désormais des droits, bien concrets, qu'ils peuvent faire valoir. Cette capacité d'adaptation peut aussi être illustrée par la référence à la récente crise sanitaire qui a sidéré la France. Les fonctionnaires pénitentiaires ont malgré tout poursuivi leur travail en présentiel en vue d'assurer la sécurité de la société et la prise en charge des personnes détenues. Il en a été de même au milieu des années 2010, lorsque la prison a dû faire face au phénomène aussi massif que brutal de la radicalisation islamiste violente. Les risques auxquels sont confrontés les fonctionnaires pénitentiaires ont également évolué durant ces 40 années, avec la diversification des missions, notamment hors de la détention, et les nouvelles formes de criminalité. Les services pénitentiaires étant situés au bout de la chaîne pénale et aux confins du champ social, il n'est pas étonnant qu'ils aient ainsi pris l'habitude de traiter les difficultés auxquelles ils sont confrontés, puisqu'ils ne peuvent les transférer à d'autres institutions. Nous le constaterons tout particulièrement s'agissant de la surpopulation carcérale, des violences ou bien encore de l'accueil de détenus souffrant de troubles psychiatriques. J'ai le sentiment, et pardonnez-moi cette expression, qu'elle est un peu, l'administration pénitentiaire, la voiture balai de la société, récupérant tout ce qui a raté, failli ou dysfonctionné en amont au sein de notre société, famille, école, hôpital, institution sociale. Le troisième constat, qui est plus en réalité un impératif, consiste à placer les services pénitentiaires, et ça a été rappelé par M. le Président, français, dans une perspective européenne, permettant une meilleure appréhension de ses forces, mais aussi de ses vulnérabilités. Après avoir présenté dans une première partie intitulée « Représentation et réalité, les services pénitentiaires, leur histoire récente, leur mission et les métiers qui s'y rattachent, ainsi que les débats qu'ils suscitent », je souhaite dans un second temps centrer mon propos sur les évolutions marquantes connues par cette institution et quelques-uns des défis auxquels elle se trouve confrontée. J'aborderai ainsi à ce titre, dans cette partie, successivement cinq thématiques. Le boom de la probation, le temps utile de la prise en charge pénitentiaire et le développement de la criminologie, dans une première partie. Le défi de la radicalisation, l'affirmation du droit en prison, la surpopulation carcérale, les violences en milieu pénitentiaire. Première partie, donc, représentation et réalité. La prison est un service public historique et essentiel. La direction de l'administration pénitentiaire est, comme vous le savez, rattachée au ministère de la Justice. Elle suit actuellement plus de 260 000 personnes placées sous main de justice, dont un peu moins de 78 000 détenus, sachant que, comme ça a été rappelé, nous battons toutes les semaines des records. Les autres personnes suivies, soit 180 000 personnes dénommées probationnaires, purgent des peines restrictives de liberté en milieu libre, ce que les anglo-saxons appellent des sanctions communautaires. Il s'agit notamment de condamnés par des tribunaux à un sursis probatoire, un travail d'intérêt général, un bracelet électronique, une peine de stage, etc. Au total, ces 260 000 personnes sont prises en charge par 103 services d'insertion et de probation, normalement un par département, et 187 établissements pénitentiaires. Il est intéressant à ce stade de rappeler quelques caractéristiques saillantes présentées par le public pris en charge au sein des établissements pénitentiaires, personnes détenues, mais les caractéristiques se retrouvent également chez les probationnaires. Il s'agit tout d'abord d'une majorité écrasante d'hommes. Plus de 96% des détenus sont des hommes. Cette population est relativement jeune, 35 ans en moyenne, même si cet âge moyen recouvre bien sûr des situations très variées. Notons à cet égard deux points importants. D'une part, le nombre de mineurs incarcérés, resté étonnamment qui a peu varié durant les 20 dernières années et qui augmente de façon considérable sur cette dernière année, passant de 645 détenus mineurs l'année dernière à plus de 850 aujourd'hui. Deuxième point intéressant, c'est la proportion de personnes âgées qui a connu depuis le début du siècle une augmentation très sensible. Cette population est fortement carencée, je l'ai rappelé, précarisée, fragilisée, sur les plans familial, professionnel et plus largement social. Le parcours de ces personnes étant caractérisé par l'échec et la marginalité. Il s'agit par ailleurs d'une population au sein de laquelle les addictions, drogue, tabac, alcool et les problématiques psychiatriques sont largement surreprésentées. Les détenus sont en majorité de nationalité française, la proportion d'étrangers est en très légère hausse pour s'établir à 23%. La durée du séjour en détention a tendance à s'allonger d'année en année depuis 20 ans et s'établit actuellement autour de 12 mois. Les durées de détention sont cependant très contrastées en fonction des peines prononcées, bien évidemment. La baisse continue de la proportion de prévenus, c'est-à-dire des détenus non encore jugés, s'est interrompue ces derniers temps, ces prévenus représentant autour de 28% du nombre total de détenus, très loin toutefois des 50% constatés il y a 20 ans. Concernant la répartition des condamnés par type d'infraction, il convient de relever la part croissante des atteintes aux personnes et des actes de violence. Au-delà de ces chiffres et de ces constats, je souhaite rappeler quelques dates clés de cette administration pénitentiaire. La prison a été créée comme peine par l'Église catholique, il y a de cela fort longtemps. Elle a été laïcisée et introduite dans notre droit pénal par la Révolution française. C'était à cette époque une avancée considérable par rapport aux sanctions encourues sous l'Ancien Régime et aux lettres de cachet. Depuis 1911, l'administration pénitentiaire est rattachée au ministère de la Justice, alors qu'elle était auparavant l'une des directions du ministère de l'Intérieur. Et dans de nombreux pays, l'Espagne par exemple, l'administration pénitentiaire est toujours rattachée au ministère de l'Intérieur. En 1945, en réaction au régime de Vichy, une réforme pénitentiaire très ambitieuse, portée par le directeur de l'administration pénitentiaire de l'époque, Paul Amor, qui avait vécu l'enfermement nazi, affirme dans l'esprit du Conseil national de la Résistance que la peine vise avant tout à l'amendement et au reclassement social du condamné. Cet objectif se retrouve dans la mission actuelle de prévention de la récidive, aujourd'hui assignée à l'administration pénitentiaire. En 1974, et vous avez consacré, je crois, un colloque récemment au bilan du président Giscard d'Estaing, deux événements notables méritent l'attention. La création d'un secrétariat d'État à la condition pénitentiaire, confié à un médecin par le président Giscard, et le déplacement de Valéry Giscard d'Estaing aux maisons d'arrêt de Lyon, à l'occasion duquel il serre la main d'une personne détenue et déclare « La prison, c'est la privation de liberté et rien d'autre. affirmation par ailleurs tout à fait discutable. Je ne peux évoquer les années 80 sans rendre un hommage appuyé à Robert Badinter, dont nous déplorons la récente disparition. Au-delà de l'abolition de la peine de mort, il a fermé les quartiers de sécurité renforcés, autorisé les téléviseurs individuels en détention, généralisé les parloirs sans dispositif de séparation, créé la peine de travail d'intérêt général, amélioré l'accès à la santé, à la culture et à l'enseignement. Il a surtout œuvré à la promotion d'une politique partenariale de décloisonnement active, visant à ce que l'ensemble de la société assume ses prisons, luttant contre ce qu'il avait défini comme une loi des reins, voulant que la prison ne puisse offrir aux détenus une condition meilleure que celle des plus pauvres des hommes libres. En 2009, la loi pénitentiaire constitue une avancée notable, au sein de laquelle 40 articles sur 100 sont consacrés à des droits concrets des personnes détenues. En 2022, la création et la publication à droit constant du code pénitentiaire vient parachever cet édifice juridique. Si ce code, rassemblant l'ensemble des textes pénitentiaires, n'est entré en vigueur qu'en mai 2022, son idée n'est pas nouvelle et avait été préconisée en décembre 2015 dans un rapport consacré à la simplification et à la clarification du droit des peines remis à la ministre de la Justice de l'époque, par une commission présidée par M. Bruno Cotte, dont je salue l'engagement. Je finirai ce bref historique par le drame survenu il y a quelques semaines avec l'attaque d'un fourgon pénitentiaire à un péage d'autoroute ayant entraîné le décès dramatique de deux fonctionnaires. Enfin, je souhaite rappeler que si le service public est assuré par l'administration pénitentiaire, il l'est avec le concours des autres services de l'État, des collectivités territoriales, et des associations, ainsi que le rappelle l'article 3 de la loi pénitentiaire. En d'autres termes, et de façon très concrète, il est fait appel aux services de droit commun pour prendre en charge les problématiques des personnes détenues entrant dans leur domaine de compétence. La santé des personnes détenues est ainsi confiée aux services publics hospitaliers. L'enseignement est assuré par l'Éducation nationale. La recherche d'emploi des personnes sortant de prison, relève de France Travail, je pourrais multiplier les exemples. La prison est donc une institution sociale, elle fait débat, mais elle doit être assumée par la société. Si l'on peut se réjouir que la prison, et plus largement la peine, fasse débat en France, il est nécessaire que ce débat soit sérieux, apaisé et constructif, comme il le sera certainement dans cette Assemblée. L'approche de ces questions est, hélas, le plus souvent médiatique et non scientifique, alimentée par les faits divers et la pratique bien connue de l'amalgame, consistant à tirer d'un fait isolé une généralité. À cet égard, la place réduite de la criminologie dans notre pays se fait durement ressentir. Premier constat, dans ce débat, la place centrale, voire quasi exclusive, occupée par la prison, dans le débat autour de l'administration pénitentiaire et de l'exécution des peines au détriment du secteur de la probation. Plus grave encore, la prison en France est souvent instrumentalisée pour des raisons idéologiques, voire politiciennes, réduisant ainsi le débat à des postures caricaturales entre ceux qui dénoncent des prisons 4 étoiles et ceux qui affirment, à l'inverse, que celles-ci constituent la honte de la République et des zones de non-droit. La thématique sécuritaire et pénale est devenue, avec la disparition progressive des oppositions en matière économique, un sujet sociétal propice au clivage politique. Il est intéressant de constater, en caricaturant à peine, que la droite et la gauche, souvent extrêmes et de plus en plus extrêmes, ont chacune trouvé leur bouc émissaire. Le délinquant, incarnation du mal et irrécupérable pour le populisme pénal, et la prison, lieu d'arbitraire et creuset de la récidive pour l'angélisme pénal. La réalité est infiniment plus nuancée et l'emprisonnement est souvent l'aboutissement d'un processus social, humain et pénal beaucoup plus complexe. Les termes du débat sont toutefois assez révélateurs de la difficulté éprouvée par la société française à assumer avec sérénité ses prisons en tant qu'institution nécessaire à la préservation de l'équilibre social. Il existe cependant des facteurs d'optimisme. Le rôle des services pénitentiaires étant de plus en plus reconnu au sein de l'État et plus largement de la société, ce qui a permis des avancées récentes particulièrement importantes. La prison est en effet une institution en constante évolution, je le disais, dont la participation est essentielle à de nombreuses politiques publiques. La prison est, à mon sens, l'une des institutions, je le disais tout à l'heure, qui a le plus évolué en l'espace d'une génération. Michel Foucault lui-même, pourtant extrêmement sévère en la matière, rappelait dans son ouvrage célèbre de référence « Surveiller, punir » le caractère profondément évolutif de l'enfermement et de la prison. On néglige à cet égard trop souvent cette dimension temporelle lorsqu'on étudie la question carcérale en ne regardant que la photo à un instant donné, sans prendre en considération le déroulement complet du film. Nous reviendrons tout à l'heure sur deux illustrations de cette mutation, la question du droit et le boom de la probation. Je souhaite, à ce stade, m'attarder un peu sur la diversité et l'enrichissement des métiers pénitentiaires, eux-mêmes reflets des missions nouvelles confiées à cette administration. Lorsque j'ai débuté ma carrière, je le rappelais, en 1985 à la maison centrale de Saint-Maur, un surveillant n'avait pas d'autre perspective que d'encadrer les détenus en détention derrière de hauts murs. J'ai la plus grande admiration pour ces agents qui exercent en détention, car c'est une fonction extrêmement difficile, exigeante, demandant d'immenses qualités. 40 ans après, le même agent exerce toujours en détention, mais ses compétences ont entre-temps été largement reconnues et valorisées. Avec la mise en œuvre du concept de surveillant-acteur, il participe en première ligne à la prise en charge des détenus et ses observations sont prises en compte par sa hiérarchie et par les magistrats. À l'intérieur même des détentions, un surveillant peut développer plusieurs approches de sa fonction puisque nous avons multiplié les régimes de détention en fonction du profil des détenus, quartier de prise en charge de la radicalisation, unité pour détenus violents, module de respect et structure d'accompagnement vers la sortie visant à responsabiliser les détenus, pour n'en citer que quelques-uns. Et puis, beaucoup plus novateur encore, de nouveaux métiers pénitentiaires sont apparus en lien avec de nouvelles missions qui nous ont été confiées à l'extérieur des détentions, ce qui est un élément très nouveau. C'est le cas des équipes régionales d'intervention et de sécurité, ERIS, formées par le GIGN et le RAID, dont la mission principale est de rétablir l'ordre en détention. C'est le cas également des équipes de sécurité pénitentiaire, ESP, qui sont armées sur la voie publique pour assurer les transferts des détenus en direction des tribunaux et des hôpitaux, ainsi que la sécurisation des domaines pénitentiaires. Citons aussi les brigades cynotechniques pour détecter les armes, les explosifs, la drogue en prison, ou encore les agents en charge des bracelets électroniques en milieu ouvert. Plus récemment, le renseignement pénitentiaire a également ouvert de nouvelles perspectives. Cette diversification des missions et cet enrichissement des métiers se sont accompagnés d'une reconnaissance des personnels. Plusieurs mesures symboliques, mais les symboles, vous le savez, sont importants, on le rappelait tout à l'heure en matière militaire, se sont récemment succédées. Dotation d'un drapeau à l'administration pénitentiaire au début du siècle, participation depuis 2016 au défilé du 14 juillet, et plus proche de nous, instauration en 2023 de deux journées nationales, la première le 5 avril, date anniversaire de la publication du Code pénitentiaire, est une journée de valorisation des missions pénitentiaires tournées vers le grand public afin de répondre notamment aux enjeux d'attractivité auxquels l'administration pénitentiaire est aujourd'hui confrontée. La seconde journée, le 22 septembre, correspondant au triste anniversaire de l'affaire Buffet-Bontemps à Clairvaux en 1971, est une journée de recueillement en mémoire des agents pénitentiaires morts en service et qui permet à toute la famille pénitentiaire d'honorer ses héros et de se rappeler le sens de sa mission. Au-delà de ces symboles, la reconnaissance des métiers pénitentiaires se traduit aussi par l'aspect statutaire. C'est pour cela que nous avons porté avec le garde des Sceaux la réforme de tous les corps pénitentiaires. L'ensemble de ces derniers ont été revalorisés récemment. J'insiste plus particulièrement sur la réforme historique dont ont bénéficié les personnels de surveillance, passant enfin en catégorie B, et les officiers intégrant la catégorie A. Cela va se traduire concrètement par des perspectives de déroulement de carrière totalement inédites, avec la création, à côté de la filière d'encadrement, d'une filière d'expertise qui reconnaît les différents métiers des personnels de surveillance. Cette réforme statutaire nous rend désormais attractifs dans le secteur en très grande tension des métiers de la sécurité. L'enjeu du recrutement constitue en effet un immense défi pour l'administration pénitentiaire, car nous sommes l'un des secteurs publics où les besoins sont les plus importants pour trois raisons. Le départ massif de toute une génération de surveillants qui ont été recrutés dans les années 90 pour ouvrir le programme Chalandon des 13 000 places, l'ouverture de plus de 50 établissements dans le cadre du programme 15 000 annoncé par le président Macron, et enfin la diversification des métiers pénitentiaires à laquelle je faisais référence, avec le renseignement, les extractions judiciaires, les agents en charge du bracelet électronique, les ERIS, et le renforcement des secteurs d'insertion et de probation. Dans ce contexte, l'administration pénitentiaire connaissait plusieurs handicaps, au-delà de la désaffection générale des jeunes pour le secteur public. Elle souffrait notamment d'une image dévalorisée dans le secteur très concurrentiel de la sécurité. Or, comme précédemment indiqué, nous avons des atouts majeurs à valoriser, et si les jeunes ne sont plus attirés par les carrières administratives, bureaucratiques, les métiers pénitentiaires, profondément humains et chargés de sens, correspondent à une attente. Une mise en perspective européenne indispensable. La dimension internationale, et plus particulièrement européenne, a trop longtemps été négligée au sein des services pénitentiaires français, mais plus globalement au sein de la justice et au sein de l'administration française. C'est une profonde erreur qu'elle présente, cette mise en perspective, deux intérêts majeurs. Tout d'abord, il est souhaitable de s'inspirer de certaines innovations ou pratiques développées par des pays proches, partageant nos valeurs et confrontés au même type de délinquance. Ensuite, la comparaison internationale permet de nous situer dans un ensemble plus vaste et d'objectiver nos analyses. Permettez-moi de vous livrer trois taux significatifs permettant de situer la France au sein du Conseil de l'Europe. Premier taux, le taux de détention. Il s'établit en France aux alentours de 110 pour 100 000 habitants et se situe dans la moyenne du Conseil de l'Europe. Il est toutefois en augmentation sensible ces dernières années, ce qui distingue la France de certains de nos voisins, Allemagne, Espagne, Pays-Bas, pays scandinaves, qui connaissent une tendance inverse à la diminution du nombre de détenus. Ensuite, le taux de probation français, c'est-à-dire le nombre de délinquants suivis au titre d'une peine en milieu ouvert, est de 265 pour 100 000 habitants. En Europe de l'Ouest, seule l'Angleterre fait plus, et nous sommes très au-delà des pays scandinaves et plus globalement des pays du nord de l'Europe. La combinaison de ces trois taux, détention, de ces deux taux, pardon, détention et probation, permet de tirer d'ores et déjà quelques conclusions. D'abord, contrairement à une idée largement répandue dans l'opinion publique et parfois dans le monde politique, la justice pénale en France est loin d'être laxiste. Ensuite, le niveau de réponse pénale est parmi l'un des plus élevés d'Europe occidentale quand on cumule probation et détention. Enfin, on s'aperçoit que le simple développement de la probation ne permet pas à lui seul de faire diminuer le nombre de détenus et à régler la question de la surpopulation carcérale. En ce qui concerne le troisième taux, celui de la densité carcérale, c'est le taux d'occupation de nos établissements pénitentiaires. Il s'établit à 130% de façon générale, mais c'est un chiffre, le président le rappelait, qui ne veut pas dire grand-chose, puisque la surpopulation se concentre au sein des maisons d'arrêt, et nous atteignons, et nous avons dépassé récemment, les 150% de moyenne, avec des pics à 200, 250 et quasiment 300% à Mayotte. Vous avez dû lire récemment un article sur le sujet dans Le Monde. Ce taux moyen de 130% nous plaçait jusqu'à maintenant en cinquième position, ou en cinquième plus mauvaise position des 46 pays du Conseil de l'Europe, derrière la Turquie, Chypre, l'Italie et la Belgique. Les derniers chiffres publiés en fin de semaine dernière nous placent désormais en troisième position derrière Chypre et la Roumanie. Nous reviendrons sur cette question majeure du surencombrement chronique de nos détentions qui, loin de s'améliorer, s'aggrave de façon alarmante. Deuxième partie, les évolutions et les défis auxquels l'administration pénitentiaire est confrontée. Je vais vous entretenir du boom de la probation, du temps utile de la prise en charge pénitentiaire, autrement dit du sens de la peine et du développement de la criminologie. Comme je le disais tout à l'heure, le nombre de probationnaires pour 100 000 habitants, c'est-à-dire les personnes exécutant une peine en milieu ouvert au sein de la société, s'élève à 265 en France. La progression du milieu ouvert est certainement le phénomène qui a le plus fortement fait évoluer le cadre et les structures de l'administration pénitentiaire, jusqu'à amener, aux côtés des établissements pénitentiaires, à la création, en 1999, des services pénitentiaires d'insertion et de probation. Depuis 30 ans, les personnes suivies en milieu ouvert ont augmenté de 240%, alors que cette progression n'atteignait que 93% pour les personnes détenues. Ainsi, actuellement, 180 000 personnes sont suivies en milieu ouvert par les services pénitentiaires d'insertion et de probation. Cette réalité est méconnue par nos concitoyens, les notions de peine et de prison étant souvent confondues. Se dessinent pourtant plusieurs évolutions majeures. La première, c'est que la peine d'emprisonnement n'est plus la seule réponse pénale, même si elle demeure la peine de référence pour les délits et les crimes les plus graves et les profils les plus réitérants. Deuxième élément, le filet pénal s'étend progressivement avec des incriminations pénales toujours plus nombreuses, des sanctions plus variées et souvent plus lourdes. Enfin, les services pénitentiaires d'insertion et de probation qui suivent l'ensemble des personnes confiées à l'administration pénitentiaire constituent un acteur essentiel dans la politique de prévention de la récidive, notion relativement nouvelle qui, plutôt que d'opposer sécurité et réinsertion comme on l'a fait pendant des décennies, les conjugue. Depuis maintenant une vingtaine d'années, leur action, celle des SPIP, s'est largement professionnalisée en adaptant au contexte français les modèles d'intervention les plus performants issus de la recherche criminologique. Il appartient à ces services d'insertion et de probation de développer au niveau départemental une offre de peine, privation de liberté, semi-liberté, bracelet électronique, placement extérieur, stage, travail d'intérêt général, permettant aux magistrats de recourir aux sanctions adaptées tout en contribuant à inspirer une politique pénale crédible et réaliste. Lorsque la personne délinquante est confiée à l'administration pénitentiaire, le service d'insertion et de probation, avec les contributions des autres acteurs pénitentiaires, va procéder à l'évaluation de cette personne, sa personnalité, sa dangerosité, ses facteurs de risque, ses facteurs de protection, les leviers de changement, afin de définir, en recherchant l'adhésion de l'intéressé, un parcours de peine. Ce dernier s'appuiera sur deux champs complémentaires, le champ criminologique d'une part et le champ social de l'autre, qui se conjuguent dans des proportions variées en fonction de l'évaluation de la personne. Pour certaines, et sans avoir une lecture strictement marxiste de la délinquance, les carences en matière éducative, sanitaire et sociale sont telles qu'il est impératif de profiter du temps de la peine pour mobiliser les services compétents pour travailler à leur résorption, éducation nationale, santé, formation professionnelle. La question de la responsabilité et du libre arbitre reste toutefois toujours centrale. Et il appartient aux services pénitentiaires, tout particulièrement aux services d'insertion et de probation, de créer les conditions d'une réflexion autour du passage à l'acte, de la place de la victime et du respect des règles de vie en société. Le retard accumulé, je le disais tout à l'heure, par la France dans le domaine de la criminologie appliquée n'a pas facilité cet aspect des choses, pourtant fondamental de la prise en charge pénitentiaire qui demeure encore trop peu connue. Les avancées sont néanmoins réelles depuis un temps et on peut affirmer que s'il y a bien un endroit, c'est à ma connaissance le seul, en France où la criminologie est une réalité de terrain, c'est bien au sein des services pénitentiaires. Deuxième thématique que je souhaite aborder, c'est la prise en charge des personnes détenues radicalisées. L'administration pénitentiaire a toujours été confrontée à la prise en charge de détenus dont les motivations concernant le passage à l'acte étaient politiques ou plus largement idéologiques. Sans remonter aux anarchistes et communards du XIXe siècle ou aux périodes troublées de la Seconde Guerre mondiale ou de la guerre d'Algérie, les prisons françaises ont accueilli un nombre conséquent de terroristes, entre guillemets, basques, corses, kurdes, d'extrême gauche, mais aussi islamistes, à la fin du siècle dernier et au début de l'actuel. Il existe aujourd'hui, toutefois, deux différences notables avec le phénomène auquel les services pénitentiaires ont dû faire face au milieu des années 2000. Le nombre particulièrement élevé d'incarcérations en un temps très ramassé et le caractère extrêmement prosélyte de cette population, ce qui n'était absolument pas le cas des précédentes vagues de terroristes écroués. Rappelons qu'à l'orée des années 2020, plus de 500 terroristes islamistes étaient hébergés dans nos prisons, essentiellement en Île-de-France, dans 9 établissements, vous imaginez le ratio, qui accueillaient dans le même temps 1000 détenus de droit commun radicalisés. On retrouve dans la manière dont l'administration pénitentiaire a réagi, a fait face, quelques-uns des traits que j'ai mis en exergue dans mon propos liminaire, sa capacité d'adaptation, puisqu'elle n'avait pas d'autre choix, et sa participation active à la politique globale de lutte contre la radicalisation islamiste violente. L'administration pénitentiaire, dans ce cadre, fait face, et le modèle français de prévention de la radicalisation est actuellement reconnu au niveau européen. Et je souhaite rappeler que aucun pays européen n'a fait face à une telle arrivée massive de détenus radicalisés en détention. Cette stratégie, à la fois ambitieuse et pragmatique, s'est appuyée sur trois piliers. Le premier, c'est garantir en détention, en restant fidèle à nos valeurs, le respect des droits des personnes détenues et éviter l'exploitation par certains de tout prétexte lié à un sentiment d'humiliation ou de discrimination. Dans ce cadre, par exemple, le nombre d'aumôniers musulmans a été très largement renforcé pour garantir la liberté de conscience et de croyance. Deuxième axe, c'est la mise en place d'une politique cohérente de lutte contre la radicalisation, dont l'administration pénitentiaire est devenue une actrice majeure, tant dans une dimension de neutralisation de la menace terroriste que dans la prise en charge des détenus en vue d'un éventuel désengagement. Elle a ainsi mis en œuvre une stratégie fondée sur un triptyque cohérent, détection, évaluation, prise en charge, qui s'est stabilisée en 2017 avec l'ouverture effective de quartiers d'évaluation et de prise en charge de la radicalisation au sein des détentions. Cette stratégie s'est appuyée sur un effort massif de formation des personnels pénitentiaires et la création d'équipes pluridisciplinaires, dédiées, intégrant toutes les dimensions de la radicalisation. Troisième axe, c'est la création d'un service de renseignement unique en Europe et totalement intégré au service pénitentiaire, le Service national du renseignement pénitentiaire. Doté de la double culture pénitentiaire et renseignement, cette structure appartenant officiellement au second cercle du renseignement français s'est révélée particulièrement utile et efficace. En détention, nous traitons principalement trois risques concernant ce public radicalisé. Le premier, c'est le risque de prosélytisme. Nous avons réalisé beaucoup de progrès dans ce domaine. Les détentions ne sont pas livrées aux islamistes, contrairement à ce que l'on peut lire parfois. Il y a eu des tentatives de leur part. Cependant, les situations ont évolué de manière favorable grâce à notre capacité de détection et d'adaptation. Par ailleurs, une majorité de détenus n'adhèrent pas au message des islamistes. Deuxième risque, c'est le risque d'attentat à l'intérieur et à l'extérieur des établissements pénitentiaires. Ce point mobilise très fortement l'enseignement pénitentiaire et suscite de nombreuses observations de la part des agents. À ce jour, nous déplorons toutefois 5 attentats islamistes en détention, ce que l'on oublie parfois, avec la mort d'un détenu et plusieurs surveillants grièvement blessés. Troisième risque, plus nouveau, c'est le risque lié à la sortie de ces détenus, puisque, comme le rappelait M. le Président, les détenus ont vocation un jour ou l'autre dans ce pays à sortir. Et il nous faut donc préparer cette sortie en travaillant sur la prévention de la récidive de manière particulière, mais il faut travailler là-dessus. Et il faut également travailler en lien étroit avec les services partenaires pour que la sortie soit aussi suivie que possible. Pour autant, dans ce domaine, rien n'est jamais acquis et il importe de cultiver le doute, d'évaluer en permanence les dispositifs mis en œuvre et d'actualiser l'état de la menace. À cet égard, il convient de souligner le dynamisme actuel de l'ultra-droite et une tentation pour la violence de plus en plus affirmée à l'ultra-gauche, thématique que nous avons pris en compte au sein de l'administration pénitentiaire. S'agissant de la radicalisation islamiste, de nouveaux défis sont apparus depuis 2 ans. Je le rappelais, la prise en compte de façon beaucoup plus prégnante de la libération des détenus terroristes avec le sujet de leur prise en charge à l'extérieur en milieu ouvert. Et puis, question là aussi nouvelle, la question des retournises, dont beaucoup sont des femmes, et en conséquence, la question de l'évaluation de ces femmes terroristes, sujet initialement minoré et passé en dessous de nos radars. Pour autant, il faut toujours être mesuré, il convient de ne pas se focaliser en ce domaine sur la seule prison comme facteur de radicalisation, comme certains commentateurs ont eu tendance, avec un peu de facilité, à le faire. L'étude des profils terroristes évaluée dans nos quartiers spécialisés a en effet révélé que près de 72% d'entre eux n'avaient jamais au préalable été incarcérés. Alors la prison peut être un lieu de radicalisation, voire de surradicalisation, en développant un capital idéologique et relationnel dans des établissements surencombrés, mais c'est loin d'être le seul dans notre société. Et ce sujet est beaucoup plus complexe. Je l'ai esquissé, l'affirmation du droit, un impératif pour l'administration pénitentiaire. Malgré le contexte de surpopulation, l'administration pénitentiaire je l'ai rappelé tout à l'heure, est certainement l'une des institutions qui a le plus évolué en l'espace d'une génération dans son rapport au droit. Je rappelle que dans les années 80 que j'ai vécu, les détenus n'avaient, sur le plan juridique, strictement aucun droit. La prison n'était pas un monde régi par le droit. Toutes les décisions prises par l'administration pénitentiaire, quelles qu'elles soient, étaient qualifiées de mesures d'ordre intérieur. Aujourd'hui, ce n'est plus du tout le cas. Il est intéressant, à cet égard, de noter que ce n'est pas le juge judiciaire qui pourtant prononce les peines au nom du peuple français, pourtant gardien des libertés individuelles de par la Constitution, qui s'est penché sur les conditions matérielles d'exécution de la peine et sur la question des droits des détenus. L'évolution vers la reconnaissance des droits est venue du juge administratif et du juge européen. Ce mouvement a trouvé sa consécration législative dans la loi pénitentiaire de 2009, intégrée ensuite dans le code pénitentiaire. Sur les 100 articles que comporte ce texte législatif, voté à la quasi-unanimité, plus de 40 s'intéressent aux droits, parfois extrêmement concrets, qui sont octroyés aux détenus. Et les détenus français sont à cet égard, sans doute, les détenus d'Europe qui possèdent le plus grand nombre de droits. Ainsi, la prison peut représenter une occasion de retour et parfois même de premier accès aux droits, droit aux soins, droit à la culture, droit au travail, droit à l'enseignement, droit à la citoyenneté, droit à l'information. Leur mise en œuvre de ces droits est toutefois confrontée à un principe de réalité. D'abord au regard du surengombrement dont j'ai parlé abondamment, des établissements pénitentiaires qui rend tout extrêmement compliqué, mais aussi des caractéristiques quand même très particulières de ce public, suivi par l'administration pénitentiaire. La sociologie des détenus est effectivement un facteur à ne pas négliger. Les détenus sont souvent très éloignés du droit, n'ont pas l'habitude d'y recourir, pas plus que de le respecter en toute occasion. Le droit est étranger à leur mode de fonctionnement habituel et ils règlent souvent leurs difficultés par d'autres mécanismes, notamment la violence. D'ailleurs, une majorité de personnes qui sont en détention, il faut se le rappeler, le sont pour des faits de violence. Dans ce contexte, le recours au droit est tout sauf une évidence. Il appartient dès lors à l'administration pénitentiaire d'accompagner les détenus vers le droit. À cette fin, l'administration pénitentiaire a mis en place récemment un grand plan de lutte contre les violences et un plan de promotion du droit en détention. Les deux objectifs sont en effet indissociables et intimement liés. Le détenu qui recourt au droit, en s'appuyant sur les dispositions du code pénitentiaire pour essayer de faire avancer sa cause plutôt que d'agresser un personnel, constitue à la fois un recul de la violence et une avancée du droit. L'administration pénitentiaire accorde donc au droit désormais une place prépondérante, même si cela n'a pas toujours été le cas dans le passé. Il s'agit d'une avancée fondamentale et profondément structurante. D'abord parce que la direction de l'administration pénitentiaire est un des services publics de la justice, doté de pouvoirs exorbitants du droit commun en raison de la mission qui lui est confiée. Ensuite, le droit est un facteur d'apaisement des détentions, un élément de réduction des violences et surtout un levier précieux favorisant la prévention de la récidive. Pour de nombreux détenus, un désaccord se règle d'abord par le rapport de force. Néanmoins, lorsqu'ils comprennent que le recours à la règle de droit permet d'apaiser les tensions, de faire avancer son dossier, de trouver la réponse adaptée, c'est une étape franchie vers la réinsertion. Par conséquent, le droit n'est pas un ennemi pour l'administration pénitentiaire, pas plus qu'une variable d'ajustement, mais bien une exigence et un impératif. Je ne peux évoquer le droit en détention sans m'arrêter quelques instants sur la création du code pénitentiaire que j'ai évoqué à quelques reprises, qui résulte du constat d'un éparpillement des dispositions législatives et réglementaires formant le droit pénitentiaire. Source d'incertitude et même d'insécurité pour les magistrats, les avocats, les fonctionnaires de l'administration pénitentiaire et les détenus eux-mêmes, cet éparpillement du droit présentait aussi le risque d'une méconnaissance des exigences constitutionnelles d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi. En outre, la création à droit constant du code pénitentiaire a permis aujourd'hui de mieux faire connaître l'importance, la diversité, la spécificité des missions du service public pénitentiaire, tout en affirmant le droit des personnes qui lui sont confiées dans un document unique, aisément accessible. La surpopulation carcérale, un cancer qui mine nos détentions, c'est un fil rouge dans mon intervention que cette question de la surpopulation carcérale. Il existe en effet une véritable distorsion entre les principes et la réalité en ce domaine. L'enseignement individuel posé par la loi de 1875 a été solennellement réaffirmé par la loi présomption d'innocence portée par Madame Guigou du 15 juin 2000, il y a pratiquement 25 ans. Cependant, nous ne sommes toujours pas en situation d'appliquer l'enseignement individuel et le Parlement a voté en 2022 un sixième moratoire. Suspendant sa mise en œuvre concrète jusqu'au 31 décembre 2027, il est très probable qu'à cette date, ce principe demeure une nouvelle fois virtuel. À cet égard, il est intéressant de souligner que cette notion d'enseignement individuel, ça c'est très français, très française. Dans les autres pays européens, on parle plutôt de respect de la dignité. Par exemple, en Espagne, pays très avancé en matière pénitentiaire, les cellules peuvent être doublées si l'espace et l'équipement le permettent et si les personnalités des détenus paraissent compatibles. L'essentiel pour les Espagnols est le contenu utile de la journée de détention, la cellule étant prioritairement un lieu où l'on dort. Notons que l'enseignement individuel a longtemps été en France un vrai totem, notamment dans le monde politique, résumant la pensée politique sur la prison. Ce qui est à la fois dommage et très réducteur. J'utilise à dessein ce terme de fléau structurel concernant le surencombrement et non pas l'absence d'enseignement individuel, parce que ce surencombrement dure depuis des décennies. Cela fait 40 ans que je travaille au sein de cette administration et je n'ai connu, ça a été rappelé, que deux périodes très brèves, atypiques, exemple de surpopulation carcérale. 2001, année suivant la loi relative à la présomption d'innocence, et 2020, pendant le confinement lié à la crise du Covid. Cette situation de surpopulation carcérale contribue à dégrader de façon significative les conditions de détention dans les structures pénitentiaires, portant atteinte à la dignité et aux droits des détenus, bien évidemment. Mais aussi à compromettre le sens et l'efficacité des peines. Comment, dans une telle situation, dans un établissement à 250% de taux d'occupation, et je rappelle que le nombre de personnel n'est pas corrélé au nombre de détenus, comment, dans une telle situation, concevoir un temps de prise en charge pénitentiaire comme un temps utile visant à prévenir la récidive. Enfin, ça affecte significativement les conditions de travail des personnels parce que les conditions de détention des détenus sont les conditions de travail des personnels. C'est aussi un facteur majeur d'aggravation de la violence et de non-respect du droit. Comme je l'ai indiqué tout à l'heure, le nombre de détenus avait fortement diminué durant le confinement et nous avions quasiment atteint l'objectif de l'enseignement individuel. Depuis, la remontée des effectifs est continue et en l'espace de 3 ans, les établissements pénitentiaires français ont dû absorber, entre guillemets, plus de 17 000 détenus supplémentaires. Cette hausse peu connue est totalement inédite en période de paix. L'administration pénitentiaire n'a jamais connu une telle aggravation de ses effectifs. L'analyse des chiffres sur le long terme démontre que l'évolution du nombre de détenus n'est pas en lien direct avec la délinquance, déjà très délicate à évaluer, mais beaucoup plus avec des faits divers à résonance médiatico-politique ayant fortement impacté l'opinion publique. Ainsi, les mouvements à la hausse constatés avec les pics en 2002, 2007, 2011, 2015 et 2021 sont à relier respectivement à l'agression de Papivoise près d'Orléans en fin de campagne électorale présidentielle en 2002, au débat sur les peines planchers en 2007, à l'affaire dite de Pornic en 2011, aux attentats terroristes en 2015 et plus récemment au féminicide de Mérignac en 2021. Pour faire face à cette situation, la France a développé 3 réponses. La rationalisation de l'occupation des places de détention. Lorsque j'ai pris mes fonctions comme directeur de l'administration pénitentiaire au printemps 2021, 3000 cellules étaient, pour des raisons diverses, inoccupées en établissement pour peine. Nous avons corrigé cette anomalie. Deuxième réponse, c'est la construction d'établissements pénitentiaires. 50 nouveaux établissements dans le cadre du programme présidentiel, dit 15 000. Et enfin, la limitation par la loi des courtes peines d'emprisonnement et le développement des alternatives à l'incarcération, bracelet électronique, travail d'intérêt général, peine de stage, etc. Or, force est de constater que ces actions, aussi nécessaires soient-elles, ne permettent pas à elles seules de régler le problème. Dans plusieurs années, lorsqu'il sera achevé, le programme de construction de 15 000 places offrira une capacité pénitentiaire de 75 000 places. Nous hébergeons déjà plus de 78 000 détenus. La politique visant à favoriser les mesures de probation, qui fait de la France l'un des pays européens, on l'a vu, où elles sont le plus développées, ne s'est pas traduite par une baisse de la population carcérale. Incarcération et mesures de probation exécutées en milieu ouvert ont augmenté de façon parallèle en vertu d'un phénomène que la criminologie connaît bien, qualifié d'extension du filet pénal. Dans ces conditions, il est impératif qu'une réflexion apaisée et constructive soit engagée par l'ensemble des acteurs politiques, magistrats, professionnels pénitentiaires, chercheurs, afin de sortir de cette impasse. Des pays voisins, Allemagne, Espagne, Pays-Bas, Finlande, pourraient nous inspirer. Leur approche a été systémique et pragmatique. Les Allemands ont ainsi, en 10 ans, diminué le nombre de détenus d'un tiers, intégrant dans leur réflexion le coût de l'incarcération. On parlait tout à l'heure du domaine fiscal. Je rappelle qu'une place de détention est entre 300 et 400 000 euros, que les chiffres sont publics. Le coût de la place du futur centre pénitentiaire de Nouméa s'élèvera à 800 000 euros. Or, les justiciables et nos compatriotes sont aussi des contribuables. Et à ce coût d'investissement, il faut ajouter un coût de fonctionnement de 120 euros par détenu et par jour. Les Allemands, sans doute l'éthique weberienne, ont intégré cette dimension économique ainsi que le coût de la récidive, puisque dans un système pénitentiaire en surchauffe qui n'est pas en capacité de faire de la détention à un temps utile, la récidive explose. Dans le même temps, le taux de recouvrement des amendes pénales en Allemagne est passé à 90%, alors qu'en France, il est inférieur à 40%. On voit bien la nécessité de cette approche globale et systémique. Si le recours à un numerus clausus doit, à mon sens, être écarté pour des raisons juridiques et constitutionnelles, mais aussi de bon sens, la reconnaissance par les magistrats du principe de réalité dans le domaine pénitentiaire, principe de réalité qui s'applique dans tous les autres secteurs de la justice, doit être recherchée. Aucune autre institution ne fonctionne ainsi de façon habituelle et sans aucun moyen supplémentaire à 200, 250%, voire 300% de sa capacité. Une politique pénale, pour être efficace, doit être réaliste et prendre en compte les réalités pénitentiaires. Il est désormais impératif de sortir de cette facilité consistant à faire de l'emprisonnement la réponse simpliste à toutes les problématiques complexes que d'autres institutions ont échoué à traiter. Je fais notamment référence à la question de la psychiatrie. Winston Churchill, dont on ignore souvent qu'il a été en charge du système pénitentiaire britannique, qu'il a profondément fait évoluer dans les années 1910, avait tenu à rappeler solennellement et avec une pointe d'humour devant la Chambre des communes que toute réforme efficace de la prison devait avant tout chercher, j'ouvre les guillemets, à empêcher le plus grand nombre possible de personnes d'y entrer. C'est vraiment nécessaire si l'on souhaite que la prison soit utile. Je conclurai cette partie en citant un grand professionnel pénitentiaire qui a dirigé l'ENAP, l'école, Philippe Potier, qui a beaucoup œuvré pour introduire la criminologie dans nos pratiques. J'ouvre les guillemets, on discourt beaucoup sur la prison, mais on la pense peu. La prison est d'abord un temps de peine, un espace-temps qui doit viser à prévenir la récidive par une action socialisante ayant pour objectif de permettre à la personne détenue de mener maintenant et plus tard une vie responsable. Dernier élément que je traiterai, c'est la question des violences en milieu pénitentiaire, qui est une réalité, mais qui ne doit pas se transformer en fatalité. La surpopulation carcérale exacerbe cet autre fléau contre lequel l'administration pénitentiaire a engagé une action résolue, la question des violences. La violence, dans sa définition, fait consensus. L'Organisation mondiale de la santé la définit comme l'usage délibéré ou la menace d'usage délibéré de la force physique ou de la puissance contre soi-même, contre une autre personne, ou contre un groupe ou une communauté qui entraîne ou risque fort d'entraîner un traumatisme, un décès, un dommage moral, un mal développement ou une carence. Je ferme les guillemets. La violence dans ses causes est davantage clivante et pose question. à plus forte raison lorsqu'elle s'exerce en milieu pénitentiaire, notamment en détention. Qu'elle soit considérée comme tenant aux personnes accueillies par les établissements pénitentiaires et pour certaines prévenues ou condamnées pour des faits de violence, et de plus en plus, ou comme inhérente à la prison, elle-même lieu de rapport de force et de contrainte par essence, quoi qu'il en soit, si la violence est bien une réalité, elle ne doit pas être considérée comme une fatalité. Nous déplorons actuellement plus de 10 000 actes de violence physique entre codétenus par an, 21 000 actes de violence contre les personnels, dont 5 000 actes de violence physique, parfois très graves, les autres étant des violences verbales ou des menaces. Le chiffre concernant les violences entre détenus est bien évidemment sous-estimé, avec un chiffre noir extrêmement important. Nous travaillons à mieux connaître ce phénomène avec des enquêtes de victimisation, mais ce qui est loin d'être évident. Comme j'ai déjà eu l'occasion de le rappeler, le milieu pénitentiaire est devenu un milieu de droit. Or, la sécurité est le premier de ces droits. Encore plus en prison, c'est celui qui conditionne l'exercice effectif de tous les autres. Son respect garantit à la fois un climat de travail apaisé pour les personnels comme pour les intervenants, mais aussi une exécution de peine digne pour les personnes qui sont confiées à l'institution pénitentiaire en détention comme en milieu ouvert. On peut développer toutes sortes d'activités. Si le détenu a peur de sortir de sa cellule, tout ça ne sert strictement à rien. Le combat contre la violence doit donc être permanent et systémique, systématique. Aucune forme de violence ne doit être négligée. Aucun levier permettant d'améliorer la situation ne doit être sous-estimé. C'est dans ce cadre général que s'inscrit le plan national de lutte contre les violences que nous avons fait adopter en 2022 et qui affirme une ambition très forte, agir tous contre la violence au quotidien en s'adaptant à la variété des structures pénitentiaires et de leur organisation. Le périmètre de ce plan couvre l'ensemble des violences commises à l'encontre des personnels au sens le plus large. Il s'agit de tout agent pénitentiaire, de tout intervenant pénitentiaire exerçant au sein des établissements, mais aussi au sein des services d'insertion et de probation, mais également désormais à l'extérieur, à l'occasion de missions d'extraction ou de transfert. Le plan national de lutte contre la violence s'intéresse également à toutes les violences commises entre détenus, je l'ai rappelé, je n'insiste pas plus. Ce plan a fait l'objet d'une période d'élaboration d'un an qui a associé l'ensemble des acteurs de terrain, les organisations professionnelles qui ont voté le principe de ce plan en comité technique, mais également l'appel à des travaux d'universitaires, d'experts, de visites à l'étranger. Il s'agit effectivement d'ancrer cette thématique de lutte contre les violences dans le fonctionnement quotidien de chacune de nos structures pénitentiaires. Cette référence aux pratiques pénitentiaires et professionnelles me permet, j'en ai presque terminé, de rebondir sur le concept de sécurité dynamique. L'action pénitentiaire, en particulier en milieu fermé, s'appuie sur trois piliers. La sécurité passive, qui repose sur les dispositifs matériels, armement, caméras, portiques de sécurité, dispositifs de brouillage dont on parle beaucoup, de téléphones portables, de lutte contre les drones. La sécurité active, c'est l'ensemble des procédures à respecter par les personnels, mais aussi la sécurité dynamique. Sans négliger les autres formes de sécurité, dans ce triptyque plus traditionnel, le plan national de lutte contre les violences insiste sur ce troisième pilier. La sécurité dynamique repose sur un ensemble de pratiques professionnelles au sein desquelles la relation à l'autre est considérée comme prépondérante. Si la qualité du rapport à la personne prise en charge semble naturelle parmi les personnels de la filière insertion et probation, elle peut paraître de prime abord moins intuitive chez les personnels en uniforme exerçant en détention. La qualité de la relation et le caractère plus apaisé de la détention doivent permettre que le climat de peur qui irrigue trop souvent nos détentions recule et que le conflit inévitable dans toute communauté humaine ne débouche pas fatalement sur la violence. C'est le rôle qui est assigné au personnel pénitentiaire que de développer cette relation fondée sur l'autorité, l'écoute, l'observation et la responsabilité. Je terminerai ce chapitre ou cette thématique concernant les violences par le rôle également joué par les détenus dans cette lutte contre les violences, puisque nous avons développé ce rôle et les détenus peuvent volontairement être sollicités et encouragés à jouer un rôle d'information, de communication, d'accompagnement auprès des plus fragiles, à l'image des co-détenus de soutien formés au titre de la prévention du suicide en détention. Mais ils peuvent également servir de médiateurs favorisant l'alerte et la résolution des conflits dans des situations plus à risque, tout cela bien évidemment sous la supervision des personnels. Je terminerai mon propos, pour ne pas être trop long et laisser de la place au débat, sur une, parmi d'autres, bien sûr, marge de progression que j'identifie, à laquelle je suis extrêmement attaché pour une meilleure efficacité de la politique pénitentiaire. L'action publique n'est, à mon sens, je l'ai dit et répété, pas suffisamment analysée et évaluée dans notre pays. C'est le cas de nos politiques de sécurité et dans le champ de la justice, de l'action pénale et pénitentiaire. Nous y consacrons beaucoup de moyens. Des lois en ce domaine se sont multipliées et il s'agit pour nos concitoyens d'un sujet majeur, nous l'avons vu encore récemment. Il est temps de mettre en place, en lien avec le monde universitaire et scientifique, de véritables dispositifs d'évaluation intégrant la dimension internationale et privilégiant le temps long d'évaluation. C'est sans doute compliqué à une époque et dans une société qui ne pratique guère la nuance et la patience, mais cela me paraît indispensable au regard des enjeux. Je sais en tout cas que cette belle administration, par-delà les drames qui peuvent la frapper, poursuivra coûte que coûte sa mission au service de la société et de nos valeurs démocratiques, animée de l'esprit que résumait si bien Winston Churchill, encore lui, le succès n'est pas final, l'échec n'est pas fatal, c'est le courage de continuer qui compte. Je vous remercie.
Merci beaucoup, Laurent Ridel, pour cette vaste fresque qui aurait pu être d'ailleurs longuement et largement prolongée encore, mais le temps vous manquait, le temps nous manquait. Mais j'insiste à cet instant sur ce sur quoi vous avez vous-même insisté en indiquant que cette administration avait considérablement évolué depuis votre entrée en fonction il y a une quarantaine d'années. Et je rappellerai simplement à titre anecdotique que lorsque j'étais tout jeune magistrat auprès de Pierre Arpaillange, directeur des affaires criminelles et des grâces, le juge de l'application des peines de Troyes était venu lui parler de Clairvaux et de la situation de la maison centrale de Clairvaux. J'avais été un peu surpris car je pensais, tout jeune magistrat que j'étais, que normalement il aurait dû se rendre de l'autre côté de la place Vendôme à l'époque auprès du directeur de l'administration pénitentiaire. Et il nous avait dit, il avait dit à Pierre Arpaillange, et moi j'écoutais en retrait, qu'en réalité, il n'y était pas reçu. Donc la question du droit en prison, la question de l'annonce prévisible de drames qui pourraient se produire dans l'établissement pénitentiaire, ce n'était pas d'actualité. D'où l'importance de cette évolution, et de l'évolution également du comportement des cadres pénitentiaires et des agents pénitentiaires.